France Culture.
Les midis de culture. Marie Sorbier.
Saint Augustin écrit « Le langage s'entend, mais la pensée se voit ». Mon invité aurait pu en faire son mantra tant chez lui. La pensée s'incarne dans la matière, celle des mots certes, mais aussi celle de la musique et pour ce qui nous occupe aujourd'hui, celle de la peinture. Valère Novarina peint comme il respire, dans un élan vital et automatique, ce geste se confondant avec celui d'écrire, puis avec la mise en scène. Et ce n'est pas un hasard si c'est dans le nouveau cœur battant de la langue française, dans ce qu'elle a de plus organique, que ses toiles s'exposent, une façon de montrer que les frontières de la langue sont bel et bien trouées et de permettre au langage de reprendre son rôle dans l'espace. Bonjour Valère Novarina.
Bonjour.
On est heureux de vous accueillir au Midi de Culture. Si c'est le peintre que l'on souhaite mettre à l'honneur grâce à l'exposition que vous consacre la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts, il est en réalité, et on va le voir tout au long de cet entretien, difficile, voire absurde, de dissocier chez vous l'écriture de la peinture de la mise en scène. Alors comment vous aimez vous définir? Quel est le titre que vous préférez? Comment je dois vous présenter?
J'aime bien écrivain parce que c'est écrivain, c'est très concret. On voit que c'est un voilà.
Écrivain.
Je déteste auteur.
Écrivain. Et poète.
Oui, parce que c'est pas qui écrit dans le fond, pas forcément nous. Il y a aussi des états de pas possession, mais enfin de oui d'inspiration, un mot qui est plus du tout à la mode. Mais ce qui est très beau, c'est que c'est un rapport avec le souffle, parce qu'il semble toute la réalité est concentrée sur le souffle. Et j'ai toujours eu, oui, presque toujours eu l'idée que le langage, que la pensée était l'achèvement du souffle. La pensée animale, il y a la pensée animale, et puis aussi oui, que le souffle est tout à fait fondamental parce qu'il contient la traverse, la traversée de la mort aussi. Et quand quelqu'un meurt, le cri qu'on entend en face, c'est toujours « c'est pas vrai ». Donc la mort n'est pas l'aune de le maître, le gramme de quelque chose, mais que c'est un domaine à part et il faut pas trop mettre le nez là-dedans.
Traces d'écriture, peinture et renversement, c'est le titre donné à cette exposition qui a été conçue par vos compagnons de route, le scénographe Philippe Marioche que vous nommez l'architecte du vide et le régisseur et acteur Richard Pierre surnommé l'ouvrier du drame, c'est magnifique l'ouvrier du drame. On y découvre vos peintures, quelques-uns de vos dessins mais aussi des films qui permettent notamment aux visiteurs d'entendre votre langue quand elle est projetée sur une scène. Comment avez-vous pensé le parcours de cette exposition? Par quel chemin le visiteur va pouvoir approcher ce langage pictural?
Mais c'est Marioche qui a pris ça en charge et il a eu quelques idées simples et très fortes. Que ce qui, les toiles libres, il y a beaucoup de toiles libres sans cadre, etc. Donc elles ont le droit de vol. Elles peuvent se balader en l'air, tenir sur on sait pas quoi, etc. Par contraste, les toiles posées verticalement contre le mur, mais ici c'était difficile parce que faut pas planter des clous dans
un bâtiment classé.
Monument historique, etc. Donc il y a des sortes d'équerres derrière bâties qui ancrent, du verbe ancrer comme un bateau, qui ancrent la toile dans le sol. Donc il y a à la fois le sol, le fond, l'endroit de la chute et l'endroit de la disparition dans les sphères.
Comment avez-vous choisi les toiles exposées?
Je les ai regardées 3-4 fois. C'était très important parce que la place des choses est plus importante que les choses elles-mêmes. Si deux choses sont comme ça, là, elles disent complètement autre chose. Et on peut agir que sur la place des choses et sur le temps, on peut rien lui faire.
Alors, quand on arrive dans la cour du château de Villers-Cotterêts, on est accueilli par une grande toile panoramique intitulée « Un temps, deux temps et la moitié d'un temps ». Elle est tranchée en son milieu par un chemin de noms, grande bande blanche au sol où apparaissent une multitude d'appellations, une litanie qui semble infinie, le tresseur de zigzag, l'enfant catapultien, l'enfant monotubulaire, l'homme du bataillon 8, le chien Coppelia, l'homme de monodie. Ce sont pour vous des noms du passé, du souvenir ou des noms du futur?
Non, c'est des noms qui apparaissent. À un moment, j'étais, enfin en exagérant un peu, je pensais que j'étais une fontaine de noms. C'est-à-dire des noms allaient sortir sans arrêt. Et en effet, je peux sortir 20 minutes de noms, si vous voulez, ça viendra tout seul. Dans le livre que j'ai fait après, j'ai dû m'interdire les noms pour faire complètement autre chose. Mais le rapport au nom est très fort. Et lorsqu'il y avait des pétitions dans les journaux, etc., à chaque fois, j'étais comme obligé de les lire entièrement, même si elles faisaient deux pages.
Vous lisiez la liste des signataires?
Ah oui, j'étais goinfre de noms.
Entre le théanthrope, le mangirier Olam, Sponk et Zéphyr, l'illogicien, la machine à dire oui, la machine à faire vrai, vox spermutabilis, l'homme de sous la terre, le bonhomme centuple, Irma Grammatica, le gardien des cailloux, sa chaise, le juge de matière, le trompeur de choses, Jean Laglaise et son moi massif, la machine à généraliser la mort, le sujet perdu, l'enfant vide de soi, la dame de pique, les mangeurs de tout en tout, l'enfant mordant le sol, seul contre tous.
C'était un extrait de L'acte inconnu dans la cour d'honneur en 2007. C'est un de vos textes. Dans tous vos spectacles, ou presque, je crois, on entend ces listes de noms. Où est-ce qu'ils habitent, tous ces personnages, avant d'être écrits par vous ?
Ils habitent souvent nulle part, parce qu'il y a aussi plus de noms inventés que de noms. Il y a peu de noms véritables. Mais ce qui, j'ai aussi cette manie des noms que j'ai, je l'ai aussi attrapée en Savoie, parce qu'en Savoie, tout le monde a deux noms. Il y a votre don à vous et ensuite votre sobriquet, une chose parfois un peu caricaturale, etc. Exemple, François Ducret, il s'appelle, Fanfouille Pio. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Le Pio, c'est le Pivert. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle François le Pivert? Parce que son ancêtre était tailleur de pierre.
Ah. Mais quand vous êtes entré dans ce studio, c'est la première chose que vous m'avez demandé, mon nom.
Ah ben oui, je n'ai pas fait exprès.
Et vous m'avez dit que c'était le nom d'un arbre, oui, on pouvait en manger les fruits. Voilà, oui. Et qu'il y avait un nom en patois.
Oui, oui.
C'est comme ça que vous allez m'appeler désormais. La force de cette exposition est de montrer, sans l'expliquer, je crois, que le geste de peindre constitue pour vous, Valère Novarina, un équivalent au langage. Peindre et écrire semblent organiquement liés. Depuis quand la peinture fait partie de votre vie?
Oui, c'est le mot geste convient bien, une espèce d'attaque de la page blanche, etc., de trace de l'attaque, une sorte, quelque chose d'offensif. Et spécialement l'importance du rythme. Disons, c'est le. Et parfois, dans un premier état, le texte est des indications rythmiques, et peu à peu, il est éclairci, s'efforce de dire quelque chose, je sais pas quoi. Mais bon, il y a toute une. Un voyage du son, un voyage des sens.
Mais est-ce que le dessin arrive avant l'écriture, dans votre vie?
Oui, il est arrivé d'une manière très précise. C'est que j'avais décidé de m'attaquer au mois de septembre au dernier acte d'une pièce qui s'appelait, le drame dans la langue française. D'ailleurs, j'ai ensuite changé ce titre, mais j'ai eu tort et je voudrais le rétablir. Donc, j'avais réservé une semaine avec personne dans mon chalet, voire personne, des provisions, etc. Un menuisier à qui j'avais commandé, chose extravagante, de me terminer une table pour le dernier acte. Je voulais une table spéciale pour les deux. Donc je m'installe un lundi, je suis là dans ma campagne d'écriture intense pendant deux semaines, et rien ne vient, mutisme total, échec épouvantable, et puis tout d'un coup j'ai mis la main sur mes feuilles, j'avais des bambous, j'avais de l'encre, etc., et j'ai dessiné pendant toute une journée, sans arrêt, et après... Oui, Jean-Marc Ferrari, qui avait une galerie à Montpellier, m'a dit qu'il faut exposer ses dessins. Je lui ai dit non, on ne va pas l'exposer, on va créer dans ta galerie une crise de dessin. C'est-à-dire, c'était le mois de mai, début mai, le soleil se lève assez tôt, jusqu'au coucher du soir. Et j'ai dessiné sans arrêt.
Mais ce qui vous plaît, c'est plus finalement le fait de dessiner qu'une fois le dessin achevé, c'est le processus qui vous plaît.
Oui, c'est le processus, c'était disons le travail forcé. Il y a le travail à haute dose et surtout travailler si c'est possible sans intention. Alors actuellement, dans tous les dossiers, il y a intention, il faut remplir la rubrique intention, c'est épouvantable. Et surtout, rester sans intention, que la matière en sait plus que nous, le langage de toute façon en sait plus que nous, une sorte d'humilité ou de disparition de l'auteur. J'ai horreur de ce mot de auteur
parce qu'il prend trop de place.
Parce que j'aime bien acteur, s'il y a action d'un acteur, de même, j'ai horreur du mot poésie, mais je l'aime chez les Allemands, où ça veut dire une densité supérieure du langage, langage surdosé.
Et par exemple, quand vous êtes en répétition, au lieu de prendre des notes, comme font les metteurs en scène habituellement, vous dessinez, ça ressemble à quoi des notes dessinées ?
Dessiner en dehors des répétitions quand même. Le début de votre question, c'était ?
Pendant les répétitions, certains acteurs ont rapporté que vos notes aux acteurs, pendant les répétitions, vous ne les écriviez pas, mais vous les dessiniez.
Ah oui, et aussi, c'est parfois les acteurs qui dessinent Agnès Sourdillon, d'autres acteurs sont dessinés, surtout les énumérations, on n'en plus finir. Il faut les écrire, les accrocher dans sa cuisine, baigner dedans, etc. Mais en contrepartie, je pense que c'est un texte qu'on oublie, qu'on peut pas, il est difficile d'oublier. Une fois appris, il est là pendant pas mal d'années.
Vous venez de parler de vos crises de dessin. C'est vrai que quand on évoque la production de vos œuvres plastiques, on doit souligner la quantité énorme. Alors, oui. J'ai eu quelques chiffres. Hein. 380 dessins en 2 jours dans un chalet d'alpage, ou bien 810 dessins de l'aube à minuit. Puis à Lyon, en 2 jours, 1021 dessins, jusqu'à la fameuse performance de La Rochelle, hein, 2587 dessins. Elles sont déclenchées par quoi, ces crises ?
Je sais pas, mais ça demande un énorme travail de préparation. L'idée, c'est d'avoir les bambous taillés comme il faut, une telle encre, etc. Et d'attaquer, de pas savoir ce que je vais faire. Quand j'ai peint chez Éric Colliard, dans sa galerie, quelque chose qui s'appelait, je me souviens plus, Nuit Noire, non, j'ai oublié le nom. Bon, oui, ce passage aussi par le noir. Disons, ce déplacement des choses, les choses se déplacent sans arrêt, tout est en voyage tout le temps. J'ai l'impression que tout va tout le temps. Et puis aussi des choses extraordinaires sur la musique, une pensée de Luther que je connais depuis 2 jours seulement. Qu'est-ce qu'il y a le plus proche de la théologie ? La musique.
Ah, et puisqu'on citait Saint-Augustin en introduction.
Luther, on ne l'attend pas là, quand même.
Non, bien sûr.
C'est assez incroyable, c'est très beau.
Et Saint-Augustin disait... Chanter, c'est prier 2 fois.
Voilà.
On se retrouve.
Oui, Saint-Augustin, c'est une montagne, hein, c'est extraordinaire.
Dans ce monde où m'étonnent tant de choses, l'arbre, par exemple, l'arbre m'étonne, m'émerveille. L'homme, pas du tout. Le basalte, ah alors oui, le basalte me stupéfie, à genoux devant le basalte. Il me semble que la chance de l'homme... et de la faire taire, son idiote raison, qui fait de lui le cul-de-plomb du monde. J'aime la folie, je suis grandement épris de la folie. Je fais des cures de folie, et je m'en trouve bien, je vous les recommande.
Quand je peins, j'ai l'impression de commencer seulement à voir les choses, de les voir dans une lumière toute nouvelle, porteuse de révélations. Ça me fait le même effet que de regarder les choses à travers une lunette enchantée. Ça devient même chez moi comme une espèce de vice. Mes yeux ne me servent plus à grand-chose. C'est la peinture qui me sert Dieu.
Vous avez reconnu, je crois, Valérie Varina, la voix de Dubuffet. Quelle place ?
C'est Dubuffet.
C'est Dubuffet. Vous pensiez que c'était qui ?
Ah, c'était Dubuffet ?
Oui.
Mais il y a longtemps, alors, non ?
Il y a longtemps.
Oui, j'ai pas pensé à ça.
Vous...
Non, je pensais à celui qui était coiffeur à Salon en Champagne.
Celui qui était coiffeur ? Un acteur ?
Oui, un acteur.
Ah, vous parlez de Lucchini ?
Pardon ?
Non, je ne sais pas. Oui, Lucchini, c'est ça ?
Et je me suis dit, Lucchini est drôlement bien, il a fait des progrès, enfin, je ne sais pas quoi, j'étais...
Ah, vous étiez parti
ailleurs ? Oui, j'étais parti, je me suis dit, c'est quand même pas mal. Tout est... Non, mais le son est très beau. Hein, le... Mais quand j'ai rencontré Dubuffet, d'ailleurs, sur la musique, j'avais travaillé pour la radio. À l'époque, c'était extraordinaire. J'ai eu 2 heures et demie la radio à moi sans que j'aie jamais rien publié ni rien. Pas simplement, les gens étaient convaincus qu'il y avait quelque chose qui voulait parler. Ah oui, Dubuffet, extraordinaire. Alors, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était dans une galerie. On a parlé de l'émission que j'avais fait pour la radio, pour Truta, Farabet, etc. Et il m'avait dit, moi aussi, j'étais fasciné par la musique. J'aurais pu ne faire que de la musique. Et à la suite de ça, on s'est vu assez... régulièrement, avec beaucoup de sympathie. Il y avait quelque chose qui nous réunissait. Et quelque chose qui était assez joli, c'est sur la fin de notre relation, il y avait encore des pneumatiques. C'était des tuyaux souterrains dans Paris. Vous soufflez dedans, vous envoyez le message, etc. Et l'enveloppe arrive, elle est chiffonnée comme un drap, je sais pas. Mais c'était plus affectueux que le courrier normal. Et on a tout un échange par pneumatique.
Et vous échangez aussi sur la peinture avec Dubuffet ?
Oui, je le connaissais comme philosophe, enfin, ou penseur. Assez, je ne connaissais pas tellement sa peinture et ses positions sur... Il y a des intuitions extraordinaires. C'est quelqu'un... que tout le monde n'aime pas, il y a aussi un certain côté un peu anti-Dubuffet, etc. Mais disons, quand je revenais de chez lui, c'était lui le jeune homme et moi le vieillard. Il était toujours plein de quand est-ce qu'on doit faire paraître ça dans la revue, au mois d'octobre ? Ah, c'est très bien parce que j'ai une exposition à Sienne, etc. C'était un moment chaleureux dans les gens que j'ai rencontrés.
Quand on regarde vos toiles, Valère Novarina, on devine la vitesse d'exécution. Qu'est-ce qu'il permet pour vous, ce geste rapide ?
Geste rapide et aveugle. Parce que le premier état de la toile, c'est d'être mis comme ce panneau, comme ça, accroché là. Et moi, j'attaque littéralement presque les yeux fermés. Je jette des choses. Enfin, il y a le hasard, d'abord, qui manifeste ce qu'il veut dire. Et ensuite... sans arrêt, voir une autre chose sous la première. Et avec parfois des troubles bizarres. Parce que, je sais pas, dans un premier temps, vous voyez un vieux piquet qui est là, et finalement, vous voyez que c'est un chamois. Eh bien, je voyais tout avec le deuxième en premier. C'est un chamois et le vieux piquet après, pendant 3 semaines. C'est-à-dire que la perception peut et doit être menée ailleurs, conduite autrement. Alors, j'ai fait une expérience curieuse. Je suis allé un jour du Mont Athos au Kosovo. Parce qu'il y a un contraste
à
terrible.
Pied ?
Non, on va en voiture, mais c'est fait quand même un autre monde. Et je sais pas si c'est ce chaud et froid, mais mon nerf récurrentiel a été paralysé et je pouvais plus parler pendant 3 mois. Et ce qui est curieux, c'est que le fait de plus avoir d'informations... oui, parce que j'avais perdu le goût et l'olfaction. Enfin,
et l'odorat.
Et l'odorat, oui, c'est ça, complètement. Du coup, j'avais une autre enfance qui apparaissait. Non pas l'enfance, parce que la mémoire et l'odorat, c'est complètement... L'un s'appuie sur l'autre, quoi. Tout d'un coup, c'était plus l'odeur des choses, mais la texture. Une prise électrique, le bas d'une porte, une poignée usée. Et j'ai un autre enfant qui s'est réveillé. J'en ai parlé à l'ophtalmo, il m'a dit « Vous avez tout à fait raison, on a déjà remarqué, c'est très curieux, l'importance de l'odorat et que le corps se transforme tout le temps pour happer, pour saisir d'autres choses. »
Et c'est ce qui se passe quand vous peignez, vous avez l'impression d'avoir une autre perception ?
J'essaye de ne pas savoir, hein, voilà.
Est-ce que vous diriez que vos œuvres sont achevées ?
Oui, j'aime bien le mot achevé aussi. J'aime bien les mots. Alors mon fils Virgile, quand il était petit comme ça, me dit qu'est-ce que tu fais ? Je lui dis je termine le tableau que j'ai commencé hier. Il m'a dit c'est un tableau, ça se fait d'une fois. Et j'ai appliqué ça pendant quelques mois d'avoir une seule journée, etc. Et puis après c'était le contraire, c'est-à-dire de reprendre des tableaux qui avaient 25 ans, 30 ans, de les regarder et d'avoir envie de continuer par tel côté, etc. Donc il y a les peintures sont jamais finies.
Vous les reprenez toujours aujourd'hui, vos peintures ?
Oui, oui, enfin, c'est pas tous les jours, c'est pas tout le temps. Il y en a que je laisse tel quel, je fais rien du tout, mais j'aime voir autre chose sous ce que j'ai vu à un certain moment.
Et les textes aussi, vous les reprenez ? Même les textes publiés, vous pourriez réécrire des bouts ?
Là, j'hésite un peu, oui. Pas tellement. Non, généralement, avec les acteurs, le texte est tel que. Il ne sera pas réécrit en répétition pour eux, il ne sera pas aménagé pour eux, il est comme ça. Et ils me disent, mais ça, tu sais... Non, ça, je ne sais pas, mais c'est écrit, c'est comme ça. Une espèce de respect de la chose qui est là. Enfin, voilà. Mais ce qui, oui, concernant la mise en scène, j'ai un seul procédé, c'est de plus jamais regarder le texte, ni demander ce qu'il y a dedans, demander toujours aux acteurs, et là, qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu réponds ? Qu'est-ce qu'il y a dans la scène ? Tu devrais savoir, tu as écrit la pièce. Non, non, je veux que ce soit toi qui me le dise.
Parce voilà. Que l'acteur sait mieux ?
Le récit par les acteurs.
L'acteur connaît mieux votre pièce que
vous-même. Ah oui, l'acteur, il est complètement pris dedans. Il est condamné à porter le texte et particulièrement grâce au pot. Le toucher de sa peau, le sol. Alors, je me suis un peu embrouillé. Michel Bodina, il savait que j'écrivais à une pièce où il y aurait quelque chose pour lui. Il me disait jamais qu'est-ce que je vais dire, est-ce que je suis célibataire, ce que. Il me disait, dis-moi, qu'est-ce que je vais avoir comme chaussure. Et j'ai rencontré plusieurs fois cette histoire, les gens rient ou sourient, etc. Et quelqu'un, il m'a dit, cantatrice extraordinaire qui ont disait qu'est-ce qu'il faut pour chanter Isolde, une bonne paire de chaussures, l'ancrage dans le sol, notre ancrage dans le sol et aussi dans le fond dans ce qu'il y a au-dessus de nous, parce que je conçois pas du tout tout est charnel jusqu'au bout. Enfin, tout est.
Mais ça veut dire que quand vous concevez les décors pour les pièces que vous mettez en scène sur vos textes, vous pensez aussi le sol, vous peignez aussi le sol d'ailleurs.
Oui, oui, souvent je peins le sol et je pense que le. Oui, moi j'arrive dans une zone qu'il faut que je révise un peu. Parce que c'est très bien d'avoir une réflexion comme ça théorique et puis il faut aussi en sortir, revenir, etc. Mais essayer de sortir de l'enfer de la communication, qui est quand même un endroit complètement mécanisé, où les gens ne comprennent plus, plus les phrases. Mais je ne sais pas, il y a un problème de compréhension du français.
Hein. Oui, la mort du langage, la communication.
Ah oui, oui, il y a quelque chose de... Et puis cette perte des couleurs. Il y avait 5 A ou 8 ou je ne sais pas quoi, il n'en reste plus que 2. Il y avait plus de... Que, disons, tout se rétrécit, oublie que la couleur... Que le souffle, le rythme, c'est aussi important que la chose qui est dite. Tout est traduit en argent bancaire, enfin, je ne sais pas comment dire, en chose morte.
Est-ce que vous diriez que vos œuvres, votre dessin, préexistent aux gestes de les créer ? Est-ce qu'ils sont là avant ?
Non, ben le geste, il est imprévu, il surgit tout d'un coup.
Il est accidentel, le geste ?
Oui, l'accidentel, parce que c'est ça l'intérêt de la peinture. On renverse un pot et on continue la toile quand même sur autre chose. Il y a des voies de sortie. Avec les textes, c'est plus difficile de manœuvrer. Et puis le texte, pour qu'un texte, si vous avez travaillé toute l'après-midi, vous voulez savoir ce que vous avez fait, vous aurez difficilement la force de lire. Lire, c'est fatigant. Tandis que si vous peignez, vous aurez quelque chose sur le mur, vous pourrez regarder, j'ai fait quelque chose.
Puisque vous parlez de murs, justement, dans votre atelier, vous pendez vos textes comme on pend une toile qui doit sécher. Vous dites que vous pratiquez la littérature pariétale. Pourquoi vous avez besoin de mettre vos textes dans l'espace ?
Parce que c'est comme ça que je les vois. Si le texte est sur du plat, là, devant moi, je ne vois pas bien. Même 3 feuilles, c'est pour les voir dans l'espace. Avant, après, etc. Toute la réflexion là-dessus, tout l'art, tout le métier... S'il y a un métier, c'est sur la place des choses, et les situations, les renversements, les passages, etc.
Mais ça veut dire que le sens vient de la place du mot dans la
phrase ?
Oui,
et puis il y a aussi un rapport avec la façon dont les choses sont écrites. Par exemple, le mot « réel », si vous le mettez en allemand, ça peut s'écrire avec les mêmes lettres, ce sera « lehre ». C'est très curieux que réel devienne les raies. Donc, pour les étymologies interlangues.
Est-ce que, avant de mettre en scène vos pièces, vous savez réellement ce qu'il y a dedans ? Est-ce que le geste de mise en scène vous la dévoile ?
Je ne sais pas. Il y a un certain aveuglement. Il y a une certaine.
Comme quand vous peignez.
Oui,
il faut partir aveugle.
Oui, oui, il faut pas savoir trop de choses. Il faut savoir. Il y a aussi une chose qui vient laver tout, c'est le comique. Parce que le comique a mauvaise presse. Hein. Le comique est satanique, selon Baudelaire, etc. Et moi, je parle de la sainteté du comique, du baptême du comique, des larmes de rire, etc.
Vous avez écrit un texte merveilleux sur Louis de Funès là-dessus.
Voilà. Louis de Funès, c'est extraordinaire. Ouais.
Sur le comique. Est-ce qu'une bonne distribution, c'est une garantie d'un possible bon spectacle ? Est-ce que tout passe par là ?
Oui, moi je pense que c'est l'acte principal de la mise en scène, c'est choisir les acteurs. Et comment un tel, etc. Non, c'est, le choix est fondamental. Et quand j'ai fait quelque chose à la Comédie Française, Bozonnet m'a dit, tu es parmi les gens qui ont eu le plus de temps pour te décider pour les acteurs. J'avais dû demander 4 mois, ou je sais pas.
Ah, vous les avez écoutés longtemps.
Les voir tous les jours, oui.
Une dernière question peut-être avant de finir cet entretien. Est-ce que pour vous, c'est une épreuve d'aller voir d'autres mises en scène de vos textes quand d'autres metteurs en scène s'en emparent ?
Il ne faut pas généraliser. Il y a d'autres metteurs en scène qui font des choses magnifiques. Et puis, des metteurs en scène complètement à côté. Ça, l'un et l'autre...
Mais vous allez les voir ?
Pardon ?
Vous allez les voir,
oui,
ces mises en scène-là ?
Oui, le spectacle de Merlin, Madame Jual, etc. Je vais les voir. Il y en a que je vois, Bellorini, je l'ai vu 5-6 fois de suite. Parce qu'il y a toujours quelque chose... je pense qu'il faut revoir beaucoup les spectacles et aussi il faut les reprendre. Parce qu'il y a une sorte de progrès, d'approfondissement, de bonification par le jeu, simplement jouer 12-14 fois et pas deux. L'acteur a besoin de temps pour entrer dans son interprétation, tout à fait comme les pianistes. Les pianistes ne savent pas d'un seul coup comme ça. Il y a un mûrissement, un approfondissement très important de se rendre compte de ça. Et en France, on tourne trop vite la page.
Merci beaucoup Valère Novarina. L'exposition Traces d'écriture, peinture et renversement se visite jusqu'au 27 avril à la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts. À signaler aussi une journée spéciale samedi 1er mars autour de l'exposition avec Olivier Martin Salvan. Pour se dire au revoir, on écoute la grande diva égyptienne Oum Kalsoum. Nous commémorions il y a peu les 50 ans de sa mort et vous aviez dit un jour qu'elle libère et élève en louange ou en volute la voix humaine, solitaire mais jamais seule. Cette émission a été préparée par Aïssa Touendoy, Oriane Delacroix, Boris Pino, Zora Vignier, Lise Ripoche, Zoé Coupé et Louis Costard. Elle est réalisée par Laurence Malonda avec à la prise de son Alex Dang.